Bonjour. Votre magazine Métropole Mag est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Vos lecteurs sont Daniel Bissuel, Martine Le Breton et Guy Helm. Métropole Mag numéro 20, automne-hiver 2025-2026. Site grenoblealpesmétropole.fr. Grenoble-Alpes-Métropole, l'actualité du territoire et des services publics. Dans ce numéro, vous trouverez un dossier spécial « La ville se transforme ». Entre Grenoble, Échirolles et Hébin, Grande Alpes transforme 400 hectares au cœur de la métropole. Le point sur les avancées concrètes de ce projet au très long cours. Parmi les autres dossiers, réemploi. Fast fashion, la filière textile déborde. Économie, la métropole pionnière de l'économie sociale et solidaire. Interview, Christophe Robert, la précarité n'est pas une fatalité. En image, Haro sur le bitume. La quête de fraîcheur, en plein mois d'août en ville, n'est pas si lointaine. Et pour rafraîchir la ville, rien de tel que de retirer le béton afin de laisser l'eau s'infiltrer et planter des végétaux. C'est ce qu'ont fait les habitants de Fontaine en octobre lors d'un chantier participatif « Libérons les sols » organisé par la métropole dans le cadre des débats pour le climat. Nous voyons en photo une enfant coiffée d'un casque et vêtue d'un gilet de chantier, transportant un morceau de gravat. Hommage à Lilian Dejean. Le site de la déchetterie Jacquard, complètement refait à neuf, a été inauguré. Son mur d'enceinte a été doté d'une fresque réalisée par l'artiste Valouchka, dont on voit la photo, en hommage à Lilian Dejean, agent municipal de la ville de Grenoble, tué dans des circonstances tragiques le 8 septembre 2024. C'est sur le site de Jacquard qu'il travaillait, au sein du service de la propreté urbaine. Les Bleuets déroulent. 6-1, les joueurs de l'équipe de France Espoir de football ont déroulé un jeu offensif face à l'Estonie le 13 octobre au Stade des Alpes, comme en témoigne la photo d'illustration. À l'heure de l'impression de ce magazine, on ne peut que supposer qu'ils ont remporté leur match face aux îles Féroé le 17 novembre à Grenoble de nouveau. Ça sent bon l'euro. Les marchés s'animent. Ateliers cuisine, échanges sur la nutrition et l'alimentation, escape game, biodéchets, décryptage d'étiquettes, à l'automne, les marchés de la métropole ont été animés, comme on le voit sur la photo prise à Saint-Égrève, avec un atelier organisé par Champiloupe pour cuisiner un kebab de pleurote. Liste des communes de Grenoble-Alpes-Métropole. Bresson, Brillé et Angonne, Champs-sur-Drac, Champagné, Clé, Coran, Domaine, Échirolles, Hébin, Fontaine, Gières, Grenoble, Herbé, Jarry, La Tronche, le Fontanil-Cornillon, Le Gat, le Pont de Clé, le Sapé en Chartreuse, Mélan, Miribel-Lanchâtre, Mont-Saint-Martin, Montchabou, Murianette, Notre-Dame de Commiers, Notre-Dame de Mésage, Noyaré, Poisat, Provézieux, Quai en Chartreuse, Saint-Barthélemy de Séchilienne, Saint-Égrève, Saint-Georges de Commiers, Saint-Martin-d'Air, Saint-Martin-le-Vinou, Saint-Paul-de-Vars, Saint-Pierre de Mésage, Sarcenat, Sassenage, Séchilienne, Cessiné-Parisé, Cessin, Vars, Allières et Rissé, Volnavé-le-Bas, Volnavay-le-Haut, Venon, Veurey-Voroize, Vif, Visil. Le mot de Christophe Ferrari. La science comme boussole de notre action. Le changement climatique, la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, les énergies renouvelables, une supercherie qui ne fonctionne pas, les scientifiques, stupides, c'est ce que Donald Trump a déclaré depuis le siège de l'ONU notamment. Le même qui fait le lien entre paracétamol et autisme, celui aussi pour qui l'eau de Javel aurait été un remède au Covid. Face à cette nouvelle ère d'obscurantisme dont la France n'est pas exemptée, en attestent notamment les débats autour de la loi du plomb, maintenir la science comme boussole est bien l'un des combats les plus importants du XXIe siècle. Les scientifiques ne dictent pas ce qu'il faut faire. Ils rendent visible ce qui va advenir si nous ne faisons rien, et ce que nous pouvons espérer en agissant. En l'occurrence, l'urgence écologique et climatique n'est plus à démontrer. Jusqu'à la fin du mandat métropolitain, nous agirons résolument en montrant qu'il n'y a pas de fatalité. Nous développons les réseaux de chaleur urbains, comme celui de Meylan, tout juste inauguré, qui utilise à 85% une énergie renouvelable issue de l'incinération des déchets. Nous bâtissons la future unité de méthanisation au centre de compostage de Murianette, qui produira de l'énergie verte à partir des déchets alimentaires des habitants. Nous relançons l'aide à l'achat d'un vélo neuf ou d'occasion pour les métropolitains. Des décisions concrètes qui illustrent l'ambition permanente de la métropole d'apporter des solutions à chacune et chacun pour une transition écologique qui, sur notre territoire, se vit déjà. Réindustrialisation des plateformes chimiques du sud grenoblois, une nouvelle espérance. Il ne peut y avoir de fatalité non plus face à la désindustrialisation de notre pays, de nos territoires et aux destructions d'emplois. C'est aussi ce que traduit le projet de reprise locale, Exalia, tourné sur la chimie verte et porté par des industriels locaux et des ex-salariés de Vancorex. La métropole a réaffirmé son soutien à celui-ci, notamment en étant le premier acteur public à délibérer un soutien financier contribuant à faciliter les investissements nécessaires. Le projet fait l'objet d'une écoute attentive du ministre de l'Industrie et les discussions avec l'État avancent dans le bon sens. L'espoir est de mise. Christophe Ferrari, président de la métropole, maire du Pont de Claix. À retenir. Climat Libé Tour. Les scientifiques disent non à Donald Trump. La deuxième édition du Climat Libé Tour, organisée par Libération en partenariat avec la métropole, s'est tenue à la MC2 fin septembre. Une édition sur le thème de la résistance de la science face aux fake news, avec une table ronde sur les effets de la présidence Trump sur la recherche aux États-Unis, animée notamment par Camille Parmesan et Mike Singer, chercheurs américains, et par le français Thomas Lovaux, climatologue émigré en Pennsylvanie entre 2009 et 2018. Culture. Prendre le tram avec un billet de spectacle. L'Hexagone, scène nationale située à Meylan, a annoncé lors de son lancement de saison une nouveauté. Le billet couplé. C'est simple, un billet de spectacle acheté contient un billet aller-retour de transport en commun valable sur tout le réseau de SMMAG, Métropole, Grésivaudan et Voironnais. Ce dispositif, pionnier en France, est une expérimentation qui vise à réduire l'empreinte carbone générée par les déplacements des spectateurs qui représente au global 80% de l'impact environnemental des salles de spectacle. Plus d'infos sur théâtre-hexagone.eu. Cadre de vie. le centre de Vars apaisé. La place de la République à Vars, à Lierse et Rissé a bénéficié du programme Cœur de ville, cœur de métropole. Les nouveaux aménagements ont été inaugurés fin septembre. Espaces sécurisés pour les piétons et cyclistes, circulation des véhicules repensée, bancs publics et végétalisation viennent apaiser cette place centrale de la commune. Équipement. Le GA inaugure sa salle polyvalente, l'Ardente. La commune du GA, dans le sud de la métropole, a inauguré cet automne sa salle polyvalente baptisée l'Ardente après une rénovation énergétique d'ampleur. Cet investissement très important a été en partie financé par la métropole via un fonds qui vise à accompagner les projets de transition énergétique des communes. Cette salle accueille les activités associatives, le sport scolaire et est ouverte à l'ensemble des habitants des trois villages du GA et de la commune voisine de Miribel-l'Enchâtre. Prix. La métropole récompensée pour sa gestion de l'eau. Le bon rendement des réseaux d'eau potable, l'utilisation des boues provenant des eaux usées pour créer du biogaz à Aquapol, dont on voit la photo, la valorisation de ces mêmes boues une fois incinérées, en cendres, pour produire du ciment, voici les exemples d'actions mises en œuvre par Grenoble Alpes Métropole qui lui ont valu, pour la deuxième année consécutive, d'être récompensé pour son service public de l'eau et de l'assainissement. Le prix « Territoire d'eau en transition écologique » a été remis vendredi 17 octobre par l'association Amorce, réseau national des territoires engagés dans la transition écologique, lors de son congrès à Angers. Hommage. Décès de Jean-Yves Poirier, maire historique du Fontanil-Cornillon. Jean-Yves Poirier est décédé le 20 octobre à l'âge de 76 ans. Maire du Fontanil-Cornillon durant 33 ans, il fut aussi vice-président du Conseil général, président du CIVOM, syndicat intercommunal à vocation multiple, du Néron, et vice-président de la métropole, où il s'impliqua notamment pour l'aire de Grand Passage. Christophe Ferrari, président de la métropole, a réagi. Je garderai le souvenir d'un homme bon, engagé et courageux, profondément amoureux de sa commune. Élu en 1983 au Fontanil-Cornillon, il avait quitté son mandat au début de l'année 2016 pour raison de santé. Monde en transition. Qualité de l'air. Les poils et inserts d'avant 2002 seront interdits en janvier. Pensée prime air bois. Nouvelle étape au 1er janvier 2026 dans le plan pour la qualité de l'air décidé par les services de l'État. Après les foyers ouverts, interdits depuis 2024, ce sont les poils et inserts d'avant 2002, trop polluants, qui sont bannis. Au total, 123 communes de la métropole, du Voironnais et du Grésivaudan sont concernées par cette interdiction. En effet, le chauffage au bois est à l'origine de 70% des émissions annuelles de particules fines en Isère. Source, Atmo Aura. Qui aggrave les maladies respiratoires et cardiovasculaires et augmente le risque de cancer. Jusqu'à 2000 euros d'aide. Les ménages ont désormais l'obligation, s'ils souhaitent se chauffer au bois, de s'équiper d'appareils labellisés « flammes vertes ». Les installations anciennes ont un rendement souvent inférieur à 50% contre 70 à 75% pour un appareil labellisé « flammes vertes ». Bien utilisé, un poêle ou un insert performant émet jusqu'à 10 fois moins de particules fines et consomme 5 fois moins de bois qu'un vieil appareil. Grenoble Alpes Métropole propose une aide financière aux habitants, la prime Air Bois. Celle-ci peut s'élever, selon les ressources, jusqu'à 2000 euros par foyer et elle est cumulable avec les aides nationales, MaPrimeRénov, les CEE, certificats d'économie d'énergie, ou encore les prêts à taux zéro. Vous pouvez estimer le montant d'aide auquel vous pouvez prétendre sur le site de la métropole. Infos et simulations sur grenoblealpemétropole.fr/primairebois tout attaché. Se déplacer. L'aide à l'achat de vélo est de retour. Bonne nouvelle, l'aide métropolitaine à l'achat de vélo a repris le 31 octobre 2025. La métropole a décidé de provisionner un budget de 900 000 euros pour le relancer jusqu'à fin 2026. Victime de son succès, l'aide à l'achat de vélo avait dû être suspendue en mai dernier. En effet, l'enveloppe prévue avait été rapidement consommée, avec plus de 5400 bénéficiaires sur le territoire. La majeure partie d'entre eux a opté pour un vélo électrique neuf, mais tous les types de vélos, y compris d'occasion, sont éligibles. 84% des bénéficiaires ont déclaré avoir modifié leurs habitudes de déplacement après l'achat de leur vélo. L'aide à l'achat vélo est réservée aux personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 22 983 euros. Le montant de l'aide varie ensuite selon les revenus et le type de vélo acheté et peut atteindre 500 euros. Grâce au partenariat entre la métropole et les vélocistes locaux, il n'est pas nécessaire d'avancer les frais. La carte des vélocistes partenaires et la demande d'aide sont accessibles sur le site mobilité-m, le SM Mag étant pilote du dispositif, et sur celui de la métropole. Infos et demandes sur grenoblealpemétropole.fr/aide-achat-vélo, tout attaché. Risque inondation, vivre avec le DRAC. Le DRAC va faire l'objet d'un vaste plan d'action à partir de 2027 pour renforcer la protection des habitants face aux risques inondation. La rivière DRAC nécessite des aménagements d'ampleur afin de protéger les zones urbaines qu'elle traverse et la biodiversité qu'elle abrite. C'est l'objectif du PAPI DRAC, Programme d'action de prévention des inondations, qui prévoit, à partir de fin 2027, une série d'aménagements sur 17 communes de la métropole grenobloise, depuis le barrage de Notre-Dame-de-Commiers jusqu'à la confluence avec l'Isère. Renforcement de digues, gestion des sédiments, création de passes à poissons, abaissement des îlots. Au total, 30 000 habitants sont concernés en cas de crue bicentennale du DRAC. À Champagné, par exemple, un espace sera rendu au lit de la rivière. À Champs-sur-Drac, une nouvelle digue sera bâtie. À Varces, la protection du champ de captage de l'eau potable sera renforcée. Entre l'espace Comboire et Sassenage, le lit de la rivière sera débarrassé des graviers et galets qui forment des îlots et les digues seront renforcées afin de prévenir tout risque en cas d'inondation. Le tout avec des aménagements pensés pour les promeneurs, travailleurs et sportifs qui arpentent ces voies vertes, source de fraîcheur en été. L'objectif est de trouver un équilibre durable entre la sécurité des habitants, la préservation des milieux naturels et l'usage quotidien des berges. Ces actions s'inscrivent dans une démarche de long terme, menée en concertation avec les acteurs locaux et les riverains. L'ensemble du programme d'action du PAPI DRAC, qui se déroulera jusqu'en 2031, représente un investissement de 86 millions d'euros, dont 23 millions d'euros seront financés par la métropole, le reste étant réparti entre le département de l'Isère, l'État, EDF, l'Agence de l'eau et le SYMBHI, S-Y-M-B-H-I, qui est le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère, en charge de l'aménagement et la gestion des rivières du Sud-Isère. Il est financé par la métropole, 40%, et le département de l'Isère, 60%. 1 sur 200. Les aménagements prévus par le Saint-Bi protégeront les habitations des crues bicentennales du Drac, c'est-à-dire qui ont un risque de 1 sur 200 de se produire chaque année, avec un débit estimé à plus de 2060 mètres cubes seconde. Le saviez-vous? À leur état naturel, le Drac et l'Isère se rejoignaient non pas à Sassenage, autour de la presqu'île scientifique, mais au niveau du jardin de ville, sous la Bastille. Le Drac serpentait au niveau de l'actuel cours Jean Jaurès. Au XVIIe siècle, pour protéger les habitants des crues et étendre les activités humaines, le Drac a été repoussé vers le Vercors. Alpes, ALP, et le Dragon Rivière à Cosmocité. La rivière et la montagne, deux écosystèmes qui interagissent, parfois de façon brutale. Cosmocité et le Saint-Bi s'associent pour une exposition pédagogique dédiée aux enfants dès 4 ans comme aux plus grands. Alpes et le Dragon Rivière. Dans ce parcours ludique, on peut construire un cours d'eau, faire pleuvoir sur une montagne jusqu'à inonder une vallée, rencontrer les habitants de la rivière et de ses berges, le tout joliment illustré par les dessins de Pierre Chanderson. Services publics, santé, des ateliers pour bien manger sans se ruiner. Manger sainement avec un petit budget peut relever du casse-tête. À Échirolles, des ateliers montrent pourtant qu'une autre alimentation est possible. Une illustration concrète du contrat local de santé signé par la métropole. Les pâtes, neutres. Les fromages, les huiles, les noix, utiles. Les bananes, les tomates, les courgettes, indispensables. Les sodas, les pâtes à tartiner, à limiter. Ils sont 6, 5 femmes et un homme, habitants du quartier des Essarts-sur-Yeux à Échirolles, réunis autour d'une table, d'un café et de quelques cookies, à la pomme, dans les locaux de la maison des habitants. Leur conversation porte sur un sujet qui concerne tout le monde, l'alimentation. Plus précisément, comment bien faire ses courses avec un petit budget. L'association Cultivons est à l'origine de cet atelier qui vise à aider les habitants des quartiers populaires à se nourrir plus sainement sans dépenser davantage. Elle s'appuie sur le programme OptiCourses, mis au point par l'INRAE, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, qui prend la forme d'ateliers collectifs animés sur plusieurs séances. Arrêter les chips, c'est trop dur. Ce jour-là, les habitants dressent le bilan de leur parcours. J'ai appris plein de choses sur les légumineuses, les glucides, les lipides ou encore les fibres, commence une des participantes. J'avais des préjugés sur les marques et surtout les sous-marques, les premiers prix, note de la rédaction. Au final, quand on regarde la composition, c'est souvent la même chose, pour moins cher, poursuit une autre. Oui, on a fait une dégustation à l'aveugle et, au final, les sous-marques étaient souvent meilleures, approuve sa voisine de table. En quelques séances, elles se sont familiarisées avec la pyramide alimentaire, ont appris à lire les emballages et les étiquettes, à classer les ingrédients selon les critères de santé, neutres, à limiter, utiles et indispensables, à composer une assiette et un repas équilibré pour, in fine, manger mieux et bien sans exploser leur budget. Pari globalement réussi. L'expérience révèle néanmoins deux constats. D'abord, selon Pimprenel Calmar, de l'association Cultivons, savoir quel aliment est bon pour la santé n'est pas toujours simple. Les pâtes, par exemple, sont neutres, mais cela dépend avec quoi on les associe. Ensuite, il est parfois difficile de changer certaines habitudes. J'ai appris à diversifier mes sources de légumineuses et je mange un peu moins de produits transformés. Ça, c'est OK. Par contre, arrêter complètement les chips, c'est trop dur, rigole une des participantes. Salima Jidel Bruna, vice-présidente chargée de la santé, la stratégie et la sécurité alimentaire, conseillère municipale de Grenoble, nous déclare « Plus qu'un outil, ce contrat local de santé est une boussole qui va nous permettre de mieux intégrer les enjeux de santé publique dans l'ensemble des compétences de la métropole. Cette signature marque une étape majeure et nous engage au service des communes, des habitantes et des habitants. Nous faisons le choix d'une politique métropolitaine de santé ambitieuse, transversale, visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. La santé au cœur des politiques métropolitaines. Le déploiement du programme OptiCourses est une illustration concrète du contrat local de santé signé par la métropole et l'Agence régionale de santé. Ce document vise à intégrer la santé dans toutes les politiques métropolitaines et à soutenir des actions de prévention auprès des plus vulnérables. En effet, parmi les facteurs qui jouent sur l'état de santé, 70% sont économiques et environnementaux. Le CLS se décline en quatre priorités : assurer un environnement et un urbanisme favorables à la santé, promouvoir une alimentation saine et accessible, réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et agir autour des questions de santé mentale. Engagement. Sapeurs-pompiers volontaires, et si c'était vous ? Les sapeurs-pompiers volontaires, aux côtés des professionnels, veillent chaque jour sur les communes de la métropole. Des hommes et des femmes qui s'engagent au service de la collectivité. Et si c'était vous ? Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 901 sapeurs-pompiers, dont 576 volontaires, arment les 16 casernes réparties sur le territoire de Grenoble-Alpes-Métropole. L'année dernière, ils ont réalisé 31 166 interventions sur les 49 communes. Mais pour suivre le rythme, les bras manquent. Le SDIS 38, Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, recrute des sapeurs-pompiers volontaires, hommes et femmes, prêts à s'engager au service de la collectivité. Les communes où nous avons particulièrement besoin de volontaires sont Vif, Hébin, Le Sapé et Échirol, précise le lieutenant-colonel Alain Carroz, chef du groupement volontaire au SDIS 38. Pour attirer de nouvelles recrues, ils souhaitent d'abord démystifier l'image du sapeur-pompier. Ce sont des gens ordinaires qui, ensemble, font des choses extraordinaires. N'ayez pas peur, pas besoin d'être bodybuildé. Alors, de quoi a-t-on besoin ? De l'altruisme. Et vouloir donner un peu de son temps, résume le commandant Anthony Vincent, son adjoint. L'argument principal de la campagne de recrutement est qu'il est possible de concilier l'engagement volontaire et sa vie professionnelle et familiale. Des conventions avec de nombreux employeurs de la métropole, mais également avec les services périscolaires, facilitent la flexibilité pour les volontaires. Côté action, il y en a pour tous les profils. Certains ne veulent pas s'engager par peur de l'incendie. Ils peuvent choisir de rester sur la partie secours à la personne, indique le commandant Anthony Vincent. Enfin, il joue la carte de la valorisation professionnelle. Le sapeur-pompier volontaire entre en tant qu'équipier, mais va pouvoir monter en grade et en compétences, notamment sur la partie management et encadrement. Jean-François, volontaire au centre de secours de Sassenage, témoigne « Cet engagement m'apporte une fierté personnelle. Je me sens utile. » Sa dernière intervention auprès d'une dame de 91 ans tombée seule chez elle lui rappelle l'essentiel. Ces gens-là, si on ne vient pas, personne ne viendra les relever. Top 3 des fausses bonnes raisons de ne pas s'engager. Premièrement, je n'ai pas le temps. Un planning d'astreinte et de disponibilité est accessible depuis le téléphone portable où chaque volontaire peut s'indiquer disponible le matin même pour quelques heures. Deuxièmement, je n'ai pas le physique. Vous ne courez pas le 10 000 mètres et vous ne montez pas une corde à l'équerre? Pas de panique. Les tests sportifs sont accessibles à tout homme ou femme qui se maintient. Troisièmement, j'ai peur du feu. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent s'engager pour faire seulement du secours aux personnes, ce qui représente d'ailleurs 80% des missions. Ceux qui souhaitent manier la lance sont formés pour les interventions sur les incendies. Plus d'informations sur sdis38.fr. En chiffres, 17,5 millions d'euros. C'est la contribution annuelle de la métropole pour le fonctionnement du SDIS 38 sur son territoire. Territoire. Recyclage. Textile, la filière craque. Chaque année, des tonnes de textiles sont collectées, triées et réemployées. Mais le secteur connaît aujourd'hui de fortes mutations qui le mettent en difficulté. Qualité des dons en baisse, nouvelles pratiques de consommation. Explication. Pourquoi, depuis 4 mois, des bornes de collecte textile sont parfois fermées? Les bornes de collecte sont installées par la métropole et ses partenaires associatifs. Emmaüs, La Remise, Tri-Vallée et Le Relais, en charge de donner une seconde vie au textile. Dernièrement, certaines bornes ont été ponctuellement fermées par ces associations qui alertent sur la situation d'urgence que connaissent les structures locales de tri et de réemploi. Leur modèle économique est aujourd'hui fragilisé. Trop de textiles à traiter, de qualité de moins en moins bonne, et un manque de débouchés pour écouler les surplus. Résultat, les entrepôts débordent et certaines associations sont contraintes de suspendre temporairement leur collecte. Que deviennent les vêtements collectés? Une fois déposés dans les bornes ou auprès des associations, les textiles sont triés manuellement par des salariés en insertion. En moyenne, 20% des vêtements en très bon état sont revendus localement en boutique, environ 35% sont décyclés pour devenir chiffons, isolants ou rembourrages et 10% sont incinérés. Le restant est compressé en balles pour l'exportation. Mais ces flux bloquent à leur tour. Dans plusieurs pays, les textiles européens restent en grande partie invendus ou sont même refusés. Pourquoi la filière étouffe? La filière textile, déjà fragilisée en Europe, est victime d'un effet domino mondial. Les débouchés à l'exportation, longtemps essentiels, se ferment. Plusieurs pays africains et de l'Europe de l'Est, désormais tournés vers la Chine, refusent d'importer les vêtements d'occasion européens. La fast fashion, mode jetable, a bouleversé le marché. Des vêtements neufs produits à très bas coût sont souvent vendus à des prix comparables à ceux de la seconde main. Ils inondent le marché européen, mais aussi les pays africains, qui se détournent de la seconde main. Localement, ils représentent des masses de vêtements de mauvaise qualité, difficilement réutilisables. Enfin, avec le développement des plateformes de revente entre particuliers, les articles les plus valorisables échappent désormais aux associations qui se retrouvent avec des dons de moindre qualité. Quelles conséquences pour les structures locales? Les associations de collecte et de tri, souvent issues de l'économie sociale et solidaire, se retrouvent dans une impasse. Elles gèrent des volumes toujours plus importants, tout en voyant leurs débouchés se réduire. Leur équilibre économique est menacé, tout comme les emplois d'insertion qu'elles proposent. Certaines doivent stocker des montagnes de textiles invendus ou payer pour les évacuer alors que leur mission première est de leur donner une seconde vie. Comment chacun peut agir? La première règle reste de ne pas jeter les vêtements avec les ordures ménagères. Même abîmés, ils doivent être déposés dans les bornes accessibles ou dans les points d'accueil des associations. Ne pas les déposer au pied d'une borne de collecte si elle est fermée ou pleine, et les conserver à la maison en attendant que la borne rouvre. Pour les achats, la seconde main reste un choix gagnant. Certes, un vêtement d'occasion est parfois à peine moins cher que le neuf d'une enseigne de fast fashion, mais sa qualité est meilleure. Il dure plus longtemps et soutient des emplois locaux en insertion. D'autant que les boutiques de seconde main ont profondément évolué. Leurs rayons sont soignés, les vêtements mis en valeur et l'expérience d'achat se rapproche désormais de celle d'un commerce de prêt-à-porter classique. La carte des acteurs du réemploi sur grenoblealpemétropole.fr/réemploi. Service public, énergie, nos déchets chauffent Meylan. Plusieurs secteurs résidentiels et bâtiments publics de Meylan sont chauffés pour la première fois cet hiver grâce à l'incinération des déchets à Athanor. Un mode de chauffage durable qui, grâce à l'utilisation à 85% d'énergie renouvelable, ici les déchets, permet d'éviter les variations de coûts brutales que connaissent les énergies fossiles. Le nouveau réseau de chaleur métropolitain, situé à Meylan, vient d'entrer en service pour son premier hiver. Cela fonctionne comme un chauffage central à l'échelle d'un quartier. La chaleur de l'incinérateur de déchets est récupérée pour produire et envoyer de l'eau très chaude dans un réseau de tuyaux souterrains afin de fournir chauffage et eau chaude aux bâtiments. Le réseau s'étendra à terme sur 11 km. Il dessert des logements et bâtiments publics, écoles, gymnases, théâtres, piscines. En matière d'émissions de gaz à effet de serre évitées, c'est l'équivalent de 1800 allers-retours Paris-New York. Un schéma nous montre le parcours de cette énergie depuis l'incinérateur Athanor. Seront ainsi desservis le théâtre L'Hexagone, la mairie de Meylan, la piscine des Buclos, 1240 logements, l'école Mi-Plaine et Grand Pré, les crèches des Buclos, la maison de la musique, le centre culturel, la bibliothèque municipale, le gymnase des Buclos et le gymnase de la Revirée. Écoutons ce que nous dit Pierre Véry, vice-président chargé de l'air, de l'énergie et du climat, maire de Gières. Et voilà un nouveau réseau qui s'ajoute au réseau de chauffage urbain principal, à ceux de Fontaine, de Gières, du pont de Clé et aux installations de plus petits réseaux de chaleur bois sur le territoire métropolitain qui ont tous contribué à faire de Grenoble-Alpes-Métropole la première métropole de France sur les transitions, sur les enjeux d'air, d'énergie et de climat au classement de l'ADEME de 2024. Compostage. Comment vos épluchures vont créer de l'énergie? D'ici fin 2027, le centre de compostage de Murianette sera entièrement modernisé et produira de l'énergie verte à partir des déchets alimentaires. Un projet majeur pour la transition énergétique du territoire dont le chantier est en cours. Vous le savez peut-être, la métropole grenobloise produit déjà du biogaz à partir des eaux usées traitées à Aquapol. Selon le même principe, dès novembre 2027, les déchets alimentaires collectés dans le territoire permettront de produire jusqu'à 7 gigawatt-heure de biogaz par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de gaz de 700 foyers. Comment ? Grâce à la construction d'une unité de méthanisation. Concrètement, à leur arrivée au centre de compostage, les déchets alimentaires collectés dans le territoire seront mélangés avec des déchets végétaux broyés. Ce mélange sera ensuite envoyé dans une grande cuve hermétique appelée digesteur. En l'absence d'oxygène et sous l'effet de la chaleur, environ 55 degrés Celsius dans la cuve, les déchets organiques fermenteront pendant une trentaine de jours et produiront du gaz. Une fois purifiée, cette énergie sera injectée dans le réseau de distribution de GRDF et consommée localement. Mais ce n'est pas tout. À la fin du processus, le résidu issu de la méthanisation sera à nouveau mélangé avec des déchets végétaux, puis composté. Les déchets seront donc valorisés deux fois, d'abord en énergie renouvelable, puis en engrais naturel. Dimensionné pour traiter 12 000 tonnes de déchets alimentaires et 8 000 tonnes de déchets végétaux par an, le centre pourra produire 7 000 tonnes de compost. Celui-ci sera distribué gratuitement aux agriculteurs et habitants du territoire, comme c'est déjà le cas actuellement. Le centre de compostage refait à neuf. Construit en 1992, le centre de compostage, devenu vieillissant, va faire l'objet d'une métamorphose complète. Les silos seront remplacés par des tunnels de fermentation et de maturation, plus performants et mieux adaptés aux besoins actuels. De nouveaux locaux administratifs seront créés, offrant aux agents de meilleures conditions de travail. La rénovation contribuera aussi à réduire les nuisances telles que odeurs et insectes. Les travaux ont démarré cet été par la construction des locaux administratifs comprenant bureaux, vestiaires, douches et réfectoires. La rénovation de l'ancien bâtiment d'exploitation a débuté au mois de novembre, tandis que l'installation de l'unité de méthanisation aura lieu courant 2026. En attendant la fin des travaux, un atelier provisoire de compostage sera installé sur le site afin d'assurer la continuité du traitement des déchets. Les bio-seaux et sacs sont à disposition gratuitement. Point de retrait sur grenoblealpemétropole.fr/déchets alimentaires tout attaché. Le chiffre. 43 millions d'euros d'investissement de la métropole, dont des subventions attendues, 11,4 millions de l'ADEME et 758 000 euros de l'Europe. 60 kilos, c'est la quantité de déchets alimentaires produits par an et par habitant dans notre territoire. En les triant, vous contribuez à produire du compost local et, bientôt, de l'énergie renouvelable. Épluchures, restes de repas, produits périmés, thé et marques de café, la meilleure solution pour ces déchets, c'est la poubelle marron. Pour les quartiers concernés par la collecte en porte-à-porte, pour les autres, la métropole propose des composteurs gratuits aux habitants. Service public, tri, une déchetterie XXL à Grenoble. La déchetterie métropolitaine Jacquard a rouvert dans une version plus grande, plus sécurisée, plus facile d'accès et accueillant davantage de types de déchets. Les déchetteries de Varsalières-et-Rissé, Fontaine et Mélan sont les prochaines à être refaites à neuf ou agrandies. La réouverture de la déchetterie Jacquard est une étape importante du vaste plan de modernisation des déchetteries mené sur toute la métropole. L'occasion d'un point d'étape sur les chantiers en cours ou imminents. À Grenoble, depuis le 29 septembre, la nouvelle déchetterie Jacquard, quartier Flaubert, est entrée en fonction après 2 ans de travaux. Elle peut désormais recevoir 31 types de déchets, contre 21 auparavant, répartis dans 15 bennes, et sa capacité totale est passée de 4 300 à 7 000 tonnes par an. La circulation en voiture, à pied ou à bicyclette est sécurisée, avec une entrée et une sortie différenciées et des panneaux acoustiques limitent la nuisance sonore dans le quartier. Elle abrite un espace dédié aux objets réutilisables et pourra accueillir ponctuellement des ateliers de réparation. Simultanément, les déchetteries Grenoble Peuplier et Grenoble-Jouhaux, devenues trop petites et inadaptées, ont été nettoyées et ont fermé leurs portes définitivement. À Vars, à Lierre et Rissé. En travaux, la future déchetterie de Vars, bâtie sur un site de 5000 m² dans la zone du Pré de l'Orme, a pour vocation de remplacer l'existante, ainsi que celle des communes voisines, Clé et Saint-Paul-de-Vars. Sur le même modèle que Jacquard, la circulation s'y fera en boucle pour davantage de sécurité et le nombre de déchets accueillis sera augmenté avec 14 bennes différentes. De même, elle accueillera un espace dédié au réemploi. L'ouverture est prévue pour avril 2026. À Fontaine, rue Commandant Lenoir, les travaux sont en cours pour créer une déchetterie neuve sur l'ancien site de l'Élie, dans la zone des Vouillants. Elle sera aménagée sur 5000 m² de surface, avec un parcours sécurisé et accueillant davantage de types de déchets, sur des horaires plus larges qu'aujourd'hui, l'actuelle déchetterie sera fermée. À Mélan, la déchetterie de Mélan sera considérablement agrandie, passant de 1400 m² à 2900 m². Elle est actuellement en travaux et, dans ce cadre, doit fermer ses portes aux usagers jusqu'au 12 décembre inclus pour une fin de chantier prévue en février 2026. Le projet permettra davantage de sécurité en matière de circulation des véhicules et viendra faciliter les dépôts de végétaux et de gravats grâce à l'installation de basculeurs. Hauteur des véhicules, une expérimentation dans 5 déchetteries. Une expérimentation se tient depuis fin août 2025 dans 5 déchetteries métropolitaines. Saint-Martin-d'Hères, Échirolles, Hébin, Grenoble-Jacquard et Saint-Égrève. Des portiques sont mis en place à l'entrée afin de limiter, en semaine, la hauteur des véhicules à 1,90 m. Ils resteront ouverts le samedi. Le but est d'éviter que des professionnels, qui disposent de déchetteries dédiées, ne se mêlent au flux des usagers particuliers. De façon générale, les véhicules utilitaires, qu'ils soient professionnels mais pour un dépôt personnel ou loués en tant que particuliers, peuvent être accueillis une fois par trimestre en signant une attestation fournie par l'agent d'accueil. Plus d'infos sur grenoblealpemétropole.fr/déchetterie au pluriel.
Économie. Filière. La métropole, berceau et bastion de l'économie sociale et solidaire. Avec 10% de l'emploi salarié dans la métropole, l'économie sociale et solidaire constitue un des piliers de l'économie locale. Artis, la COP, Paul R, tour d'horizon des lieux emblématiques de cette alternative économique. Des centaines de vélos sont alignés dans la cour. Un peu plus loin, ce sont des milliers de sacs de vêtements qui s'entassent. D'un côté, la réserve de cycles Ango, un chantier d'insertion qui collecte, répare et vend des cycles. Et de l'autre, l'énorme stock de la remise, un autre chantier d'insertion consacré au tri et à la vente de vêtements d'occasion. Ces deux structures, actrices majeures de l'économie sociale et solidaire, ESS, sont hébergées dans l'hôtel d'activité métropolitain Artis à Fontaine, un des lieux emblématiques de l'ESS dans l'agglomération. C'est quoi l'ESS ? Commençons par une définition. L'économie sociale et solidaire, ESS, rassemble des organismes, coopératives, mutuelles, associations ou fondations, qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale. L'ESS repose sur des valeurs de solidarité et de coopération et des principes de gouvernance démocratique et de répartition équitable des profits. Dans ce secteur, comme dans d'autres, la région grenobloise compte parmi les territoires pionniers. C'est à Grenoble qu'est née en 1803 la première mutuelle de France, la mutuelle d'entraide des Gantiers. Cette caisse de bienfaisance a posé les bases du mouvement mutualisme français et de ce qui deviendra 2 siècles plus tard l'économie sociale et solidaire. L'ESS représente aujourd'hui 22 600 emplois, soit 10% de l'emploi salarié dans la métropole, dans les filières de l'insertion, de la santé, des services à la personne, de l'enseignement, de l'alimentation ou encore de la recyclerie comme Cycle and Go et la remise. Un marché de la seconde main d'ailleurs en pleine croissance selon Laure d'Épinay, directrice de la remise. Confirmation par les chiffres, la première qui compte une 20aine de salariés vend entre 600 et 700 vélos par an, tandis que la seconde qui emploie une 50aine de personnes vend plus de 300 000 produits, vêtements, accessoires, jouets, chaque année. Un soutien via l'immobilier. La métropole a développé dès 2003 une politique de soutien aux entreprises à travers notamment l'immobilier d'entreprise. Artis, premier hôtel d'activité à vocation coopérative, a été inauguré en 2008 à Fontaine. Artis, pour artisanat et innovation sociale, héberge aujourd'hui une 10aine de structures. Cycle and Go, la remise, les francas, le fil rouge, etc. représentant 70 emplois, dont plus de la moitié en insertion. Avec ses ateliers, ses bureaux et ses espaces communs, le lieu favorise les échanges, la mutualisation des moyens et les moments de convivialité entre les locataires. C'est un lieu où l'on peut croiser nos expériences, partager nos connaissances, mettre en commun nos ressources et nos outils de travail. Humainement, c'est très intéressant, témoigne Cyril Zorman, dirigeant de Probésie. Cette SCOP, d'une 40aine de salariés spécialisés dans l'installation et l'édition de logiciels libres, a grandi à Artis avant de déménager à Grenoble. Les presses universitaires de Grenoble, seule presse universitaire en France à avoir le statut de coopérative, ont également occupé des locaux à Fontaine avant de s'installer à Grenoble. Composée de 5 salariés, la maison d'édition publie aujourd'hui entre 5 et 10 ouvrages par an. Son plus grand tirage, le Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, a été réédité 3 fois et s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, preuve que l'ESS peut être synonyme de succès commercial. En chiffres, l'ESS, c'est 22 600 emplois, 80% d'associations, 10% de coopératives, qui sont des entreprises où les salariés et les usagers sont tous membres et détiennent une part égale dans la structure, que ce soit pour prendre les décisions sur le principe d'une personne une voix ou pour partager les profits. 5% de mutuelles, des structures spécialisées dans les actions de solidarité, de prévoyance et de santé. Elles se financent essentiellement par les cotisations de leurs sociétaires. 5% de fondations, ces structures recevant des dons, des droits ou des ressources de particuliers ou d'entreprises qui leur permettent de financer des projets d'intérêt général. 4 lieux emblématiques de l'ESS. La COP. La COP occupe l'ex-halle Rebatté, un bâtiment du quartier Bouchaillé-Vialet à Grenoble, construit pour l'industrie hydroélectrique. Ce tiers-lieu propose des bureaux, un espace de coworking, une salle de conférence, un coin cuisine et un bar-restaurant. La COP héberge 3 entreprises, Ener Coop Rhône-Alpes, Progéo Environnement et la Turbine Coop, ancien locataire d'Artis, et se présente comme un espace collaboratif dédié à la transition écologique et sociale. La capsule, Capberia est une association d'éducation populaire qui accompagne les jeunes dans leurs projets. L'association a transformé une friche urbaine du quartier Saint-Bruno à Grenoble en tiers-lieu baptisé la capsule, où elle met à disposition des espaces d'exposition, des bureaux et des salles de réunion pour les structures associatives ou du champ de l'ESS. Le projet mobilise une 12aine de salariés et une 30aine de bénévoles. le pôle Air. Inauguré en 2023 à Grenoble, le pôle Air réunit sur 8 000 m² 9 structures spécialisées dans le réemploi et l'économie circulaire. Ulis, Fabrica Nova, Circule Alpes, Rovera Alpes Consigne, Point d'eau, Ordi Éthique, Zesti, Envie et GEI. Le site comprend une donnerie dépose minute, un bâtiment dédié à l'anti-gaspillage et la consigne verte, un atelier dédié à la réparation des appareils électroménagers et un hôtel d'entreprise dédié à l'économie circulaire. Environ 80 personnes travaillent sur le site, dont 50 en insertion. La correspondance. Ouvert en 2023 à Grenoble, ce projet d'urbanisme accueille une vingtaine de résidents associant culture, sport, lien social et transition écologique. Ce tiers-lieu regroupe plusieurs activités, espaces de production, activités culturelles et sociales, alimentation durable. L'objectif de la correspondance est de créer un nouvel espace convivial dans le quartier Flaubert.
Économie. Design. Le design de Brillet et Angonne s'invite au mobilier national avec TERS. Un siège baptisé TERS vient d'intégrer la collection permanente du mobilier national. Une reconnaissance prestigieuse pour l'agence C+B Lefèvre qui l'a créé, c'est-à-dire Catherine et Bruno Lefèvre qui ont fondé leur agence en 2003. Il n'y a pas que sur la presqu'île ou à Innovalley que l'on innove. Brillet et Angonne abritent aussi quelques esprits pionniers. La petite commune du sud de la métropole, environ 2500 habitants, accueille par exemple l'agence de design C+B Lefèvre qui a mis au point un siège singulier et qui s'est fait remarquer. Baptisée TERZ, T-E-R-Z, cette pièce est originale à double titre. Sur le plan fonctionnel, TERZ combine trois usages, chaise, siège haut et transat. Sur le plan technique, il constitue une pièce monobloc entièrement réalisée par impression 3D grand format à partir d'acide polylactique PLA expansé. Cette résine biosourcée, issue de matières végétales, est recyclable. Selon ses concepteurs, son utilisation pour une impression 3D de cette envergure représente même une première mondiale. Catherine et Bruno Lefèvre ont installé leur agence de design C+B Lefèvre il y a plus de 30 ans à Brillet et Angonne. Nous voulions nous éloigner du centre-ville pour avoir un plus grand espace de travail et être au calme, se souvient Bruno Lefèvre. Depuis leur atelier, situé non loin de la route Napoléon, ils conçoivent des objets et équipements pour le grand public, mobilier, luminaire, art de la table et les professionnels, matériel médical, four, distributeur de vrac. TERZ rejoint une commode Louis XV. Déjà distinguée par plusieurs prix, l'agence C+B Lefèvre franchit un palier avec TERZ car le siège vient d'être intégré dans la collection permanente du mobilier national. Cet établissement public, installé dans un bâtiment dessiné par Auguste Perret, poursuit une double mission. Conserver, réparer et entretenir environ 80 000 meubles et textiles qui équipent les palais de la République, les hôtels ministériels ou encore les ambassades, et soutenir la création contemporaine en achetant chaque année une quarantaine de pièces de designers. Le mobilier national a acheté 4 exemplaires du siège TERZ qui équiperont peut-être un jour l'Élysée, Matignon ou le fort de Brégançon. La sélection est drastique. Ils achètent uniquement ce qui leur plaît sur le plan esthétique et technique, observe avec fierté Bruno Lefèvre. TERZ rejoint une autre pièce emblématique iséroise de la collection permanente du mobilier national, une commode de style Louis XV, signée Jean-François H., célèbre ébéniste du XVIIIe siècle, dont la famille possédait une maison de campagne à Brié et Angonne. Membre du réseau Circule Alpes, l'agence C+B Lefèvre est membre de Circule Alpes, une association cofondée par la métropole qui œuvre à la promotion de l'économie circulaire. Installée au pôle R, elle rassemble une trentaine d'acteurs économiques et institutionnels du sud de l'Isère. grenoblealpesmétropole.fr/circulealpes tout attaché.
Territoire, Chartreuse de Prémolles, sous la terre, un monastère. La Chartreuse de Prémolles est l'un des sites métropolitains les plus populaires qui attire chaque été des centaines de visiteurs. Mais combien savent qu'il foule un lieu historique où sommeille enseveli un ancien monastère féminin? L'histoire commence en 1234 quand Béatrice de Montferrat, épouse du dauphin Guigues André, demande à fonder sur le lieu dit de Prémolles une chartreuse qui deviendra au fil des siècles un couvent de 400 hectares abritant jusqu'à 60 personnes dont 35 religieuses. Mais en 1790, les communautés religieuses sont abolies, abandonnées, les bâtiments tombent progressivement en ruine. La forêt reprend ses droits, recouvrant pierre après pierre les vestiges du couvent. Une grande partie de la chartreuse disparaît, avalée par la végétation. Le cours de l'histoire reprend en 2019, quand la métropole de Grenoble et la commune de Volnay-le-Haut entreprennent de redonner vie à ce patrimoine devenu pour une grande partie invisible. La métropole lance d'abord la restauration de la porterie, achevée en 2022. Parallèlement, elle mandate la Société d'archéologie préventive Archéodunum pour mener des fouilles dans la forêt. C'est Quentin Rocher, archéologue médiéviste et chercheur associé à l'Université Lyon 2, qui a mené cette recherche des bâtiments disparus en utilisant une technologie inédite dans la région, le LIDAR. À l'aide d'un drone équipé d'un laser, il a survolé méthodiquement la forêt, mètre par mètre. Cette technique, utilisée notamment pour révéler les cités mayas enfouies sous la jungle, fonctionne comme une radiographie du sol. Le laser traverse le couvert végétal et révèle le relief caché dessous. Une église et deux cloîtres. Les images du LIDAR ont dévoilé ainsi des murs de plusieurs bâtiments hauts d'environ 2 mètres, enfouis sous 2 ou 3 mètres de végétation et de terre. Selon l'archéologue, il s'agit des ruines d'une église et de deux cloîtres. Je savais qu'il existait des vestiges grâce aux monticules visibles en surface, mais le LIDAR a permis de confirmer et d'affiner ses observations. Malgré les ravages du temps et du climat de moyenne montagne, ce sont potentiellement de très beaux vestiges, assure le chercheur. L'archéologue espère maintenant obtenir les autorisations et les financements pour entamer de nouvelles fouilles et peut-être mettre à jour un site patrimonial d'exception où archéologie et espaces naturels se conjugueront. La Chartreuse de Prémolles fait partie des sites inscrits au patrimoine du département de l'Isère depuis 1943. Effacer la forêt. Le LIDAR est une technologie embarquée sur drone qui fonctionne par balayage laser du sol. Elle envoie des millions d'impulsions lumineuses qui traversent le feuillage pour cartographier le relief. Après filtrage numérique des données, on peut effacer les arbres des images pour révéler le sol et le relief caché dessous. Vestiges de murs, fossés, chemins anciens, tout ce qui modifie la topographie devient visible, même sous plusieurs mètres de végétation.
Territoire. Grand Alpes, des quartiers en pleine métamorphose. Entre Grenoble, Échirolles et Ébens, le projet métropolitain Grand Alpes transforme 400 hectares au cœur de la métropole. Démolition, rénovation de logements, création d'espaces verts, de nouveaux quartiers, d'une ferme urbaine, de voies pour les vélos et les piétons, le point sur les avancées de ce projet au très long cours. L'autopont des États généraux démoli. Depuis le 23 octobre, les pelles mécaniques s'attaquent à l'autopont emblématique de l'avenue des États généraux à Échirolles. Cette infrastructure, datant des années 1970, laissera place à un carrefour au sol qui privilégiera les piétons, cyclistes et végétalisation. Les travaux qui doivent s'achever en fin d'année 2026 aboutiront à un lieu de vie apaisé, offrant une nouvelle perspective paysagère sur ce quartier. La circulation sera maintenue pendant les travaux avec des restrictions ponctuelles. Un peu plus loin, les travaux du futur quartier Connexion autour de la gare d'Échirolles ont commencé. Une ferme urbaine s'installe à Alpexpo. La ferme urbaine Millefeuille s'installe sur un peu plus d'un hectare sur l'ancien terrain de rugby près d'Alpexpo. Portée par l'association Mille Pouces, déjà implantée dans le quartier Mistral, cette exploitation bio créera plusieurs postes en insertion professionnelle. Maraîchage, agroforesterie, haies nourricières et mares pédagogiques composeront ce lieu ouvert au public. Les travaux ont débuté en mai 2025 avec l'installation de serres et réseaux d'irrigation. Les premières récoltes et ventes directes aux habitants sont prévues au printemps 2026. Le cours de l'Europe transformé. L'avenue de l'Europe à Grenoble change de visage. Les aménagements autour du centre commercial Grand Place sont quasi achevés, ainsi que le parvis de la piscine des Dauphins. Le réaménagement du rond-point Pierre et Marie Curie complète cette transformation. Un changement en profondeur, puisque deux pistes chrono-vélo ont été créées, ainsi qu'une voie dédiée au bus, 300 arbres ont été plantés et 11 000 m2 de surface ont été débitumés, l'équivalent de 1,5 terrain de foot. La végétalisation permet de lutter contre les îlots de chaleur urbaine et d'améliorer le confort des usagers. Ces travaux sont une première étape, d'autres réaménagements étant en projet sur ce secteur. Fabrique Alpes, un quartier d'emploi exemplaire. Sur la friche de l'ancien site Alibert, avenue Edmond Esmonin à Grenoble, émerge Fabrique Alpes, une future zone d'activités productives et industrielles innovantes de 10 hectares. Le projet prévoit la création d'espaces dédiés aux entreprises avec une place importante accordée à la végétalisation. Débuté en 2022, les démolitions se poursuivent jusqu'à 2026 et ensuite, c'est une phase de dépollution qui est prévue avant d'aménager ce quartier pourvoyeur d'emplois. À terme, d'ici 2030, ce nouveau quartier d'emploi renforcera l'attractivité économique de Grand Alpes, qui compte déjà 40 000 emplois et accueille des entreprises majeures comme Caterpillar, Artelia, Atos ou General Electric. La démolition de l'autopont et l'installation de la ferme urbaine vont participer à l'amélioration des mobilités, de l'accessibilité ou de la qualité paysagère de Grand Alpes, confirmant l'intensité d'un renouvellement urbain toujours au service de ses habitants, dit Renzo Sully, vice-président chargé des grands projets d'aménagement et du renouvellement urbain, conseiller municipal d'Échirolles. Les Villeneuve, premier éco-quartier populaire. Le projet de renouvellement urbain des Villeneuve de Grenoble et d'Échirolles concerne quatre quartiers, Arlequin, Village Olympique, Géant et Essart-sur-Yeux. Il vise à améliorer le cadre de vie de plus de 20 000 habitants en matière d'habitat, d'équipement, de lieux d'activité et d'emploi et d'espace public. À Échirolles, l'équipement La Butte est en cours de transformation pour accueillir la maison des habitants et les associations de quartier. Tout proche, un pôle de commerce et santé va voir le jour. Côté Grenoble, deux commerces ont été construits sur la place du marché et deux autres sont en cours de finalisation afin d'améliorer la qualité de vie et de service des habitants. La résidence Saint-Onge à Échirolles et le foyer Adoma à Grenoble, 188 logements au total, sont les derniers ensembles voués à la démolition, tandis que sur les deux communes, ce sont au total 2500 appartements qui font l'objet d'un vaste programme de réhabilitation. En octobre, la SDH a achevé la réhabilitation des tours d'Odéro, habitation emblématique du village des Jeux olympiques d'hiver de 1968 à Grenoble. Plus d'infos sur lesvilleneuves.fr.
Territoire, campus, résidence Joséphine Baker, un environnement favorable pour les études. Inaugurée après 16 mois de travaux, la résidence étudiante Joséphine Baker sur le campus de Saint-Martin-d'Air peut accueillir plus de 500 étudiants. Confort, c'est le maître mot de cette nouvelle résidence étudiante. Répartie dans deux bâtiments de 5 et 7 étages, elle propose 506 logements et 530 lits, soit 204 studios de 14 mètres carrés, 253 T1 de 18 mètres carrés, 25 T1 adaptés aux étudiants en situation de handicap moteur et ou visuel, 17 T3 pour la colocation et 7 T2 pour les couples. Chaque logement dispose d'une petite cuisine, d'un lit, d'un bureau, d'une armoire et d'une salle de bain. Les deux bâtiments proposent des salles de convivialité, des espaces de coworking et des locaux à vélo. Le bâtiment B possède en plus une salle de sport et une laverie. La résidence bénéficie par ailleurs du label NF Habitat HQE pour ses performances énergétiques et est dotée de plus de 210 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits qui produisent de l'électricité pour l'autoconsommation. Delali, 20 ans, est étudiante en troisième année de droit. Depuis la rentrée, elle occupe un studio pour un loyer de 415 € par mois, charges incluses. Pour un étudiant, c'est toujours un peu cher, mais je ne pourrai jamais trouver mieux ailleurs, sourit la jeune femme. C'est neuf, propre et beau. C'est plutôt bien équipé et c'est à peine à 3 minutes à pied de ma fac. Oui, clairement, c'est un environnement favorable pour étudier. Avec les résidences Joséphine Baker, Stéphane Zweig, Condillac, Marie Renoir et les Alpilles, le Crous dispose désormais d'une offre de logement de 4170 places sur le campus de Saint-Martin-d'Air et plus de 6700 sur toute l'agglomération. En soutenant ce projet de logement, la métropole participe à faciliter l'accès de tous à l'enseignement supérieur. La résidence Joséphine Baker a coûté 37,6 millions d'euros, dont 1,5 million financés par la métropole. Solidarité. Un logement pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Inaugurée début septembre à Grenoble, la résidence accueil Mangin propose 25 logements adaptés pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Pour beaucoup de personnes fragilisées socialement ou psychologiquement, accéder à un logement ordinaire reste un parcours compliqué, voire impossible. Entièrement rénovée par le bailleur social Actis, la résidence accueil Mangin, autrefois hôtel social, propose à ses locataires d'avoir un véritable chez-soi tout en bénéficiant d'espaces communs et de l'appui d'une équipe d'accompagnants de l'Oiseau Bleu, association qui gère la résidence. Ceux-ci organisent régulièrement des ateliers et sorties afin de créer du lien entre les habitants et avec l'extérieur. Au-delà d'un toit, l'objectif est de favoriser la stabilité, l'insertion et l'autonomie des résidents, tous ayant des parcours de vie difficiles et des difficultés variées. Addiction, souffrance psychique, faibles ressources, maladies psychiatriques, handicap moteur. Une approche qui rencontre un fort écho. La structure affiche déjà complet, Les demandes d'admission restent toutefois possibles via les travailleurs sociaux auprès du Service intégré d'accueil et d'orientation, SIAO, de l'Isère.
Territoire, précarité et logement. Christophe Robert, des idées qui marchent, il y en a. Le 27 novembre, le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, donne une conférence dans le cadre du cycle Presse Citron organisé par la métropole. Entre constats sur le creusement des inégalités et pistes concrètes pour renverser la tendance, l'expert défend l'idée qu'il est possible d'agir autrement. Entretien. 4,2 millions de personnes mal logées en France, plus de 11 millions de personnes en situation de pauvreté, selon l'INSEE 2023. Que vous inspirent ces chiffres? Christophe Robert. On n'a jamais atteint un taux de pauvreté aussi élevé en France depuis 30 ans. C'est extrêmement préoccupant. Et ce taux prend uniquement en compte les ressources des ménages, pas les dépenses, donc il ne dit pas tout. Pour tout un pan de la population, la moindre dépense imprévue vient plomber un budget déjà extrêmement tendu. Côté logement, le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans. On voit bien qu'on n'a pas su apporter les bonnes réponses, sans oublier le creusement des inégalités entre les très pauvres et les ultra-riches. Ça aussi, ce n'est pas un bon signal pour la démocratie et la cohésion du pays. Pourquoi cette évolution? Christophe Robert. Au fil des 30 dernières années, la protection que constitue l'emploi s'est fragilisée avec le phénomène des travailleurs pauvres, ubérisation, temps partiel contraint, CDD à répétition, intérim. Parallèlement, certaines dépenses ont augmenté. Le logement est devenu le premier poste de dépense des ménages. La protection sociale, RSA, APL, aide aux familles, n'a pas suivi le rythme de l'évolution des dépenses de première nécessité. Les ménages en font les frais. Comment inverser la tendance? Christophe Robert. Il y a beaucoup à faire. D'abord, soutenir davantage les personnes les plus en difficulté. Cela veut dire revaloriser les minima sociaux, mais aussi d'autres aides. Le chèque énergie ne représente que 150 euros par an environ. C'est très faible face à l'augmentation du coût de l'énergie. Il existe aussi d'autres initiatives. En matière d'accès à l'eau, par exemple, certaines villes expérimentent une tarification progressive. Les premiers mètres cubes qui correspondent aux besoins essentiels sont gratuits. Puis le prix augmente selon la consommation. Ce type de dispositif est le plus protecteur. Il y a également des actions à mener sur la question des bas salaires et la régulation des marchés des biens essentiels. Par exemple, en matière de logement, on pousse à l'encadrement des loyers pour limiter la hausse excessive des prix dans les villes. Donc, il existe des solutions. Vous êtes plutôt optimiste? Christian Robert. Oui, et c'est ce qui me rend fou. Il faut d'abord mener un débat sur ces nouvelles réalités sociales, sur les évolutions de la protection sociale ces dernières décennies, mais aussi sur les idées qui marchent, car il y en a. Un débat de société aussi, parce que la question du financement est essentielle. Je suis tout à fait consciente de l'état des finances publiques et de la dette, mais on a des propositions à faire sur le partage des richesses, en faisant contribuer chacun à sa juste mesure, tant les ménages que les entreprises. On peut vraiment faire beaucoup mieux. Est-ce que les habitants peuvent agir à leur niveau? Christophe Robert. Oui, et c'est déterminant. Déjà, chacun peut se questionner sur ce qu'il attend du politique au niveau local comme national et exercer son pouvoir démocratique via le vote. Ensuite, être solidaire. Regarder autour de soi, tendre la main, voir si quelqu'un a besoin d'être orienté vers des dispositifs d'aide sociale ou des associations. Le regard qui est porté sur l'autre, celui qui souffre, n'est pas anodin. Et puis il y a l'engagement associatif bénévole ou le don. la Fondation fonctionne à 98% grâce à des dons reversés à des associations. C'est un exercice de la solidarité qui est formidable. Une question plus personnelle. Comment gardez-vous votre énergie et vos convictions intactes ? Christophe Robert, très sincèrement, je n'y réfléchis pas. Je n'aime pas trop parler de moi, mais je suis profondément meurtrie par les inégalités et la méconnaissance de la réalité de pourquoi les gens sont dans la galère. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui profitent du système, mais la quasi-totalité des personnes qu'on aide se battent, ont vécu des choses très difficiles en termes de santé, de rupture familiale, de perte d'emploi, et essaient avec beaucoup de dignité de s'en sortir. Voir qu'on ne les protège pas ou qu'on les montre du doigt me touche profondément.
Territoire. Sport. Jules Lapierre, de la Chartreuse aux Jeux Olympiques. Vous l'avez peut-être croisé sur la route du col de Porte, filant à toute vitesse sur ses skis à roulettes. Jules Lapierre, médaillé de bronze mondial, prépare ses 3e Jeux Olympiques d'hiver en ski de fond, qui auront lieu en février à Milan Cortina, en Italie. Rencontre avec un enfant du pays dont le projet sportif est soutenu par la métropole. Jules Lapierre, fondeur Chartroussin, qui êtes-vous ? Petit, mes parents m'emmenaient faire du ski de fond autour de Saint-Pierre de Chartreuse et je pense que j'ai mordu. J'étais assez fort, alors quand ça marche bien, on a envie de continuer. J'ai fait le lycée sport-études à Villard-de-Lans, puis j'ai intégré l'équipe de France en junior et ça fait maintenant 11 ans que je suis dans l'équipe de France senior. Je m'entraîne hiver comme été grâce au ski à roulettes. J'aime aller en Chartreuse, même si ce n'est pas l'idéal, car il y a beaucoup de descentes et sur le plateau Matézin. Quelles sont les qualités à avoir pour faire du ski de fond en compétition ? Il faut être endurant, aimer l'effort physique et la douleur. C'est aussi un sport qui est très technique. Si on a une bonne technique, on est plus économe dans notre effort et donc on va plus vite. Et puis il faut émettre dans le froid. Parfois les températures atteignent moins 15 degrés. Comme tout sport d'endurance, il faut vraiment savoir se dépasser et donc avoir un bon mental. Quand ça marche moins bien, que je suis malade ou blessée, si le mental va bien, c'est déjà ça de gagné. Une vie de sportif de haut niveau, c'est comment ? On a une vie qui est super cool, mais qui est aussi très dure à certains moments. On vit toujours dans l'intensité, dans les hauts comme dans les bas. Quand on a des médailles, ce sont des moments incroyables, vraiment forts. Par contre, quand ça ne marche pas, c'est une grosse claque. Je mets tellement d'investissement dans ce sport que c'est très dur de relativiser, mais c'est aussi ça qui rend plus fort, c'est de se relever après des moments durs. Prochain objectif, les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026. Comment les appréhendez-vous ? D'abord, il y a les épreuves de sélection lors des championnats du monde de décembre, avec des épreuves en skating et en ski alternatif. Ce sont les Norvégiens qui dominent ces dernières années, mais je vais tout faire pour être prêt. J'essaie d'être assez confiant, même s'il y a toujours une pression. C'est sûr, les JO, c'est mythique. Ouverture le 29 novembre. Si l'enneigement est bien au rendez-vous, le domaine de Chamchaude ouvre ses pistes samedi 29 novembre. Situé au cœur du massif de la Chartreuse, le domaine nordique de Chamchaude comprend les stations de Saint-Hugues de Chartreuse, du Col de Porte, Sarcenas et du Sapé en Chartreuse. Vous pouvez y pratiquer la randonnée, le ski nordique ou alpin et même le biathlon. Toute la saison accueille des événements, notamment la Grande Odyssée en janvier et des animations pour tous. Info sur le site domaine-de-chamechaude.fr.
Les petits métropolitains. Une rubrique pour les plus jeunes. Es-tu un champion du tri ? En triant, tu aides la planète à respirer. Le verre, le papier, le plastique ne partent pas vraiment à la poubelle. Ils se transforment en nouveaux objets. C'est ce qu'on appelle le recyclage. Par exemple, des bouteilles en plastique deviennent un pull polaire tout doux. Des vieux cahiers se changent en cahiers tout neufs. Si un objet peut encore servir, comme tes jouets ou tes vêtements trop petits, Le meilleur geste, c'est de le donner à une association. Il fera le bonheur d'un autre enfant. Aide Lina et Arthur à trier leurs déchets en les reliant à la bonne poubelle. Il y a 4 poubelles, ordures ménagères, poubelle verte à trier, déchets alimentaires et poubelle pour le verre. Ce sont un cahier usagé, un pot de confiture, une peau de banane, un mouchoir en papier usagé, une brosse à dents cassée, des coquilles d'œufs, un pot de yaourt, un flacon de shampoing, une boîte de conserve. Réponse. Poubelle d'ordures ménagères. Mouchoir usagé, brosse à dents cassée. Poubelle jeterie. Emballage en plastique, carton, métal et papier. Cahier, bouteille de shampoing, pot de yaourt, boîte de conserve. Poubelle de déchets alimentaires. Pot de banane, coquille d'œuf. Colonne à verre, pot de confiture. Infos pratiques. Mobilité. Agence M. Conseil, vente de tickets, bus et tram, horaire, abonnement. 51 avenue Alsace-Lorraine, Grand Place. 15 boulevard Joseph-Vallier à Grenoble. 431 avenue Ambroise-Croizat à Crolles. Relais tag du campus. Horaire, trafic, abonnement et recharge. 442 avenue de la Bibliothèque, Saint-Martin-d'Air. mobilité.m.fr. Agence M Vélo. Location de vélos courte ou longue durée. 2 agences. Parvis de la gare à Grenoble et le campus à Saint-Martin-d'Air et nombreuses agences mobiles dans les communes. Véloplus-du6m.fr. accueil@metrovelo.fr. 09 74 77 73 80. Cities, location de voitures en libre-service, téléchargez l'appli Cities. alpes-du6loire.cities.coop. Alpes-Loire, avec le -du6 toujours, @cities.fr. 04 76 24 57 25.
Voirie. Problème sur l'espace public, nid de poules, mobilier cassé, feu tricolore défectueux, contactez-nous au 0 800 500 027 grenoblealpesmetropole.fr/voirie. Numothèque. La Numothèque est une bibliothèque numérique accessible en ligne à tous les habitants. Elle propose des contenus en ligne tels que livres, films, musique, journaux, cours d'auto-formation, collections patrimoniales. Le service est gratuit pour tous les inscrits dans l'une des bibliothèques municipales du territoire. Si vous n'êtes pas inscrit en bibliothèque, vous pouvez obtenir un accès d'un mois en vous inscrivant en ligne. Le site numothèque.grenoblealpesmétropole.fr.
Sapin de Noël. Collecte après les fêtes. L'opération de collecte des sapins de Noël reviendra du 5 au 31 janvier 2026 avec une soixantaine de points de collecte. Carte en ligne sur grenoblealpesmetropole.fr/sapin. Eau. L'eau potable. www.grenoblealpesmetropole.fr/eau potable tout attaché. Pour Grenoble, Champs-sur-Drac, Claix, Échirolles, Gières, Mélan, Mont-Saint-Martin, Neuillaret, Provézieux, Quai-en-Chartreuse, Saint-Égrève, Saint-Martin-de-Vignoux, Sassenage, Vars, Veurèvre, Roise, téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 au 04 76 86 20 70. Pour les autres communes de la métropole, téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 04 85 59 50 00. Les eaux usées. grenoblealpesmétropole.fr/eaux usées tout attaché. 04 76 59 58 17.
Déchets, tri. Numéro vert. Collecte, conseil de tri, retrait de bac, appel et service gratuit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Téléphone 0 800 50 00 27. grenoblealpesmétropole.fr/déchets au pluriel. Logement. Faire une demande de logement social. Améliorer son logement, obtenir une assurance à bas coût pour son logement, découvrez les actions de la métropole. grenoblealpesmétropole.fr/logement. Vos questions, nos réponses. Quand je jette une bouteille en plastique dans la poubelle, je trie, dois-je la mettre telle quelle ou l'écraser?
Il faut bien aplatir les bouteilles en plastique, mais dans le sens de la largeur et non pas du bouchon jusqu'au cul de bouteille. En effet, il faut que la bouteille conserve sa taille originale pour que les trieurs optiques puissent évaluer sa taille et analyser le type de plastique dont il s'agit.
Absent pendant une semaine, j'ai laissé une lumière allumée. Vais-je le voir sur ma facture?
Pas à ce point-là, mais il vaut mieux éviter. Laisser allumer 3 ampoules de 75 watts toute une nuit consomme autant qu'une lessive à 60 degrés.
Dois-je laver les bocaux et bouteilles avant de le jeter au verre?
Non, il faut les vider, mais il n'est pas nécessaire de les laver. En revanche, il faut retirer les couvercles et bouchons éventuels.
Sortir dans la métropole. Agenda. Ciné-concert. Le tympan dans l'œil. Du 20 novembre au 6 décembre, Grenoble et alentour. À l'écran, un film ou un dessin animé. Sur scène, des musiciens qui accompagnent en live les images projetées. Le tympan dans l'œil est l'un des rares festivals entièrement dédiés au ciné-concert. Pour cette nouvelle édition, il propose 11 spectacles originaux et inédits, accessibles à tous, comme Le Roi et l'Oiseau, mis en musique par Chapelier Fou, ou encore Sleepy Hollow, accompagné par l'électropop de Tago Mago. tympandansl'œil.com.
Festivité. La carte des marchés de Noël de l'agglo. Novembre-décembre. Cadeaux, gourmandises, ambiance musicale. Les traditionnels marchés de Noël vont animer la plupart des communes de la métropole à partir de fin novembre. Retrouvez les infos pratiques commune par commune sur grenoblealpesmétropole.fr.
Spur et grands espaces. La grande odyssée. Mercredi 21 janvier au col de Porte. La célèbre course de chiens de traîneau fait à nouveau étape au col de Porte avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole. Elle rassemblera 65 mushers internationaux et près de 600 chiens pour 13 jours de course entre la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Les équipages parcourront près de 400 km et 12 000 mètres de dénivelé positif cumulé avec une avant-dernière étape dans notre territoire au col de Porte. grandeodyssée.com.
Conférence débat. La biodiversité au service de l'humanité. Jeudi 22 janvier à 18h30, au siège de Grenoble, Alpes Métropole. Après Christophe Robert sur le logement et la précarité, le cycle de conférences Presse Citron proposé par la Métropole accueille Marc-André Selos, personnalité importante de la biologie, professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris et de plusieurs universités, sur le thème « La biodiversité au service de l'humanité ». Réécoutez les conférences passées en podcast sur la chaîne OSHA, A-U-S-H-A, de la Métropole. grenoblealpesmétropole.fr/presse-citron tout attaché.
Destination neige. Aller skier en transport en commun. Du 20 décembre 2025, dès le 29 novembre pour la ligne N62 vers le col de Porte, au 6 avril 2026, le SMMAG renouvelle son dispositif Destination neige. Rejoignez une des 4 stations de ski concernées, le col de Porte, Champs-Rousses, les 7 lots Prapoutel et le Plénet, le Collet d'Alvar. En bus au départ de la gare de Grenoble ou du Grésivaudan. Pas de frais supplémentaires pour les abonnés M Réseau, hormis la réservation fortement conseillée, de 0,50 euros par trajet. En prime, bénéficiez de tarifs avantageux sur un combiné forfait de ski plus transport à Champs-Rousses et Prapoutel. Info sur réseau reso-6m.fr.
Mais aussi le Tech et Fest, l'événement qui fait la part belle aux entreprises innovantes de la région grenobloise, revient à Alpes Expo les 4 et 5 février 2026. Le thème de cette édition, la souveraineté. Le mois de l'énergie. Visite, atelier, spectacle, de la mi-février à la mi-mars, le mois de l'énergie organisé par la Métropole propose une 50aine d'événements gratuits sur l'ensemble du territoire pour réduire la consommation énergétique. grenoblealpesmétropole.fr/agenda.
Tribune. Expression des 7 groupes politiques représentés à la Métropole. Chacun d'entre eux dispose de 800 signes pour exprimer son point de vue. Les 119 conseillers métropolitains se répartissent de la façon suivante. Pour la majorité, UMA, une métropole d'avance, comporte 30 membres. NMC, notre métropole commune, a 25 membres. ACT, ARC, des communes en transition écologique et sociale, à 19 membres. Le groupe Communes, Coopération et Citoyenneté a 14 membres. Pour l'opposition, CCM, Communes au cœur de la Métropole, a 12 membres. Le groupe MTPS, Métropole, Territoire de Progrès Solidaire, a 11 membres. GOSDDCC, le groupe d'opposition Société Civile Divers Droites et Centre, a 3 membres et il y a 5 élus hors groupe. UMA, Chloé Pantel, adjointe au maire de Grenoble. Lionel Coiffard, conseiller municipal de Visil. Laurent Amadieu, maire de Saint-Égrève, coprésidente et coprésident du groupe Une Métropole d'Avance, UMA. Elisabeth Debonne, adjointe au maire de La Tronche. Quand déchets et économie solidaire font cause commune. La gestion des déchets est souvent perçue comme technique. C'est pourtant un sujet porté par la Métropole au travers d'une volonté politique de transformation profonde du rapport aux déchets. Pédagogie, incitation au réemploi, à la réparation, la gestion des déchets est l'occasion de mutualisation de moyens de modernisation des outils et d'accompagnement des citoyens pour un avenir où nos ressources seront préservées et nos déchets réduits au minimum. L'économie sociale et solidaire joue un rôle clé dans cette dynamique en apportant des solutions locales et agiles soutenues par la métropole et en créant des emplois sur le territoire. Dans un contexte mondial incertain, miser sur le local et sur ses synergies renforce l'autonomie du territoire et améliore concrètement le quotidien de tous. Une métropole d'avance.fr.
NMC. Anaïde Mardi-Rossian, adjointe au maire de Saint-Martin-Luigny. Marc Odon, maire de Venon. Jean-Luc Corbet, maire de Vars-Allières-et-Risset, co-président et présidente du groupe NMC, et Guy Julien, conseiller municipal de Veurey-Voroise. Pour une économie et une industrie dynamique. Le territoire de la métropole est fortement lié à l'innovation et à la création d'activités avec une industrie productive et une filière de l'innovation porteuse de nombreuses entreprises et start-up. L'emploi créé par cette activité florissante étant le moteur d'une solidarité de territoire que le contexte actuel nous oblige à soutenir et à défendre. La métropole a apporté un soutien appuyé aux plateformes chimiques du Pont-de-Claix et de Jarry. La liquidation de Vercorex a été un coup dur avec de nombreuses conséquences économiques et sociales. Aujourd'hui, un projet de reprise des infrastructures est envisagé par un industriel local et des anciens salariés pour développer une nouvelle entreprise et l'exploitation de la plateforme pour produire de manière décarbonée. Les porteurs du projet Exalia ont tout notre soutien dans cette période de transition. Notre métropole commune.fr.
Acte. Souad Grand, adjointe au maire de Pont-de-Claix. Laetitia Rabi, adjointe au maire d'Échirolle. Bertrand Spindler, maire de La Tronche. Co-présidente et co-président du groupe Arc des communes en transition écologique et sociale. Les travaux de voirie et d'ouvrages d'art. Qui paie les travaux de voirie? La métropole depuis 2015. Avec quel argent? Avec les 30 millions par an que les communes et le département ont transférés à la métropole. Est-ce que cela suffit? Non. Parce que les communes veulent plus et mieux, et parce que beaucoup d'ouvrages d'art, murs, ponts, sont en mauvais état. La métropole ajoute donc 17 millions par an. Qui décide de faire les travaux? La métropole en lien avec les communes. Il y a 49 communes avec des besoins différents, avec des voiries internes et des voiries de transit. Par exemple, pour desservir la gare, l'hôpital, les parkings relais. Faire de la voirie un outil de cohésion territoriale suppose de dépasser les logiques de clocher pour penser ensemble les déplacements, la sécurité et la qualité urbaine de demain. facebook.com/eluact.lametro.
CCC. Jean-Paul Trovero, conseiller municipal de Fontaine, président du groupe Communes, Coopération et Citoyenneté, CCC. Jérôme Rube, adjoint au maire de Saint-Martin-d'Air. La sécurité sociale fête ses 80 ans, à nous de la protéger. En octobre 1945, dans un pays ravagé par la guerre, naissait la sécurité sociale. Il s'agissait d'assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Cet organisme qui couvre la famille, la vieillesse, la maladie, était géré par les salariés eux-mêmes. Cette conquête sociale fondée sur la solidarité a contribué à l'essor économique des décennies d'après-guerre. Mais depuis, elle ne cesse d'être attaquée par le patronat et ses représentants politiques. Au nom de l'impératif budgétaire, il faudrait la démanteler. Pourtant, sans les exonérations de cotisations sociales qui visent à gonfler les bénéfices, il n'y aurait pas de déficit. À l'inverse, pour retrouver la prospérité, il s'agit de protéger et développer la sécurité sociale. facebook.com/commune au pluriel coopération citoyenneté.
CCM. Dominique Escaron, maire du Sapé en Chartreuse, président du groupe Commune au cœur de la métropole. Le maquillage. Les routes métropolitaines se dégradent. Nid de poules, chaussées dangereuses pour les cyclistes et les piétons. Faute de moyens, les travaux d'entretien sont reportés. Le logement social continue de pomper des moyens alors que 15% des appartements sont vides, comme le fonctionnement de projets non justifiés, ZFE, Kern. Grenoble voit partir habitants et commerces dont on mesure la souffrance au nombre de rideaux baissés et tagués. Pendant que la situation budgétaire se dégrade, la métro trouve 20 000 euros pour financer une fresque murale sur la maison du tourisme. Coloriage ou art, une façade sans doute, mais qui ne masquera pas les trous, dans la route comme dans le budget. Notre métropole mérite une meilleure gestion car elle est naturellement belle. facebook.com/CCM Grenoble.
MTPS. Laurent Toviste, adjoint au maire de Fontaine, Émilie Chalat, conseillère municipale de Grenoble, coprésidente et coprésident du groupe Métropole Territoire de Progrès Solidaire. Les caisses sont vides. 1,615 milliards d'euros, c'est le montant du plan d'investissement voté par la métro pour la période 2021-2026. Un chiffre qui pourrait laisser penser que l'argent des métropolitains est orienté vers des investissements d'avenir. Mais au quotidien, c'est une autre réalité. Alors que 20 millions par an sont nécessaires pour l'entretien courant de nos routes et de nos ponts, la majorité a choisi d'y consacrer 0 euro en 2026, car les caisses sont vides. En cause, des choix douteux comme le siège métropolitain dont le coût est passé de 46 millions en 2017 à 108 millions d'euros, et ce n'est pas fini, et une incapacité à maîtriser les dépenses de fonctionnement, chaque composante de la soi-disant majorité cherchant à tirer la couverture à soi. Il est urgent de bâtir un vrai projet métropolitain centré sur les besoins des habitants. Grenoble-Alpes-Métropole-6-MTPS.fr facebook.com/grenoble-mtps twitter.com/grenoble-mtps
GOSCDDC. Alain Carignon, conseiller municipal de Grenoble, président du groupe d'opposition Société civile divers droite et centre. Brigitte Boer et Dominique Spini, conseillère municipale de Grenoble. La trajectoire financière conduit à de nouvelles hausses d'impôts. Alors que les avis de taxes foncières sont arrivés dans les boîtes aux lettres en septembre, il est important de rappeler que la trajectoire financière actuelle de Grenoble et de la métropole nous conduit dans le mur. La gestion actuelle repose en effet sur l'endettement constant des dépenses de fonctionnement qui augmentent chaque année et en l'absence d'économies sur les hausses d'impôts. Malgré ce matraquage, les habitants ne connaissent aucune amélioration du service rendu. Au contraire, ils constatent la dégradation des rues, des trottoirs, du mobilier urbain, des espaces verts délaissés. Sans plan d'économie structurelle, l'évolution des dépenses et de la dette conduira inévitablement à de nouvelles hausses d'impôts. Société civile 38@gmail.com.
Le conseil en direct. Prochaine séance publique. Vendredi 19 décembre à 10h. Vendredi 6 février à 10h. 1. place André Malraux à Grenoble. Pour toutes les informations sur le lieu et les conditions, rendez-vous sur grenoblealpesmétropole.fr/conseil-métro tout attaché. Sur le web, le conseil métropolitain sera visible en direct sur grenoblealpesmétropole.fr.
Grenoble, Alpes, Métropole. Locataires, les loyers sont encadrés dans 21 communes de la métropole. Testez le vôtre sur le site grenoblealpesmétropole.fr/loyer. Grenoble, Alpes, Métropole, 3 rue Malakoff, 38031, Grenoble, Cedext, 01. 04 76 59 59 59. Accueil du public au 1 place André Malraux à Grenoble. Le site grenoblealpesmétropole.fr/contact. Directeur de la publication Christophe Ferrari. Directeur de la communication Emmanuel Chion. Responsable photo Clara Goubeau. Photo, Lara Ballet, Clémence Broutin, Luca Frangella, Clara Goubeau, Pierre Jaillet, Michael Panverne, Philippe Tripier, Dans les yeux d'Elsa. Rédaction en chef, Valentine Autruf. Rédaction, Nathalie Anula, Valentine Autruf, Floriane Boileau, Michael Panverne, Jérémy Tron. Mise en page et illustration Lauriane Talichet, Lou Catala. Administration Nadine Bertoncello. Impression Imprimerie France Offset Typo FOT. Distribution Géodiffusion. Dépôt légal à parution. Distribution toute boîte aux lettres. Dépôt en nombre Mairie et équipement métropolitain. Tirage 220 000 exemplaires. Papier 100% recyclé, certifié PEFC, 100% issu de gestion durable de la forêt. Photo de couverture Clara Goubeau.
Votre magazine Métropole Mag est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 3500 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, soit en CD ou CDA ou MP3, ou bien sûr en clé USB ou encore en téléchargement sur notre site www.bs-grenoble.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences à Grenoble le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 11h au 11 de la place Gustave Rivet. En outre, plus de 25 000 livres et 2000 revues de presse sont accessibles par nos adhérents par téléchargement sur le site de l'Association des donneurs de voix. Pour nous contacter, le téléphone est le 07 44 86 8604 et le courriel secrétariat@bsgrenoble.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine Métropole Mag numéro 20, automne-hiver 2025-2026. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.